αξίζει μια ματιά σου. Κι εγώ ζητιάνο έρπομαι στη συμπεριφορά σου. Εσύ σε όλο μου το βιός, εσύ κι οι πέντε δρόμοι. Μ' αρέσει που γυρνώ φτωχός και παμπλουτό στη γνώμη. Ξάφνους ερωτευτικά, μυαλά, λεφτά, καριέρα. Όλα εξανεμίστηκαν, αχ πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σ' αγαπήσω, θα ζήσω αυτοκτονήσω. Θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό. Φαντάζομαι τι θα ζητάς, να αγγίξω την ψυχή σου. Τι ζήσεις μου λογαριασμός και χρέος που με πνίγει. Σε κάθε κλάσμα του φωτός φεύγεις και ο χρόνος λύγει. Ξάφνους ερωτευτικά, μυαλά, λεφτά, καριέρα. Όλα εξανεμίστηκαν, αχ πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σ' αγαπήσω, θα ζήσω αυτοκτονήσω. Θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό. Μυαλά, λεφτά, καριέρα. Όλα εξανεμίστηκαν, αχ πολύ και μου αστέρα. Γιατί να σ' αγαπήσω, θα ζήσω αυτοκτονήσω. Θα πέσω από το παράθυρο, στην αγκαλιά σου λαφυρό.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir chers auditeurs, chères auditrices de RDIWA, auditeurs du DIWA et d'ailleurs, puisqu'on sait qu'il y en a parmi vous qui nous écoutent sur les FM, sur les ondes, et puis d'autres qui nous écoutent sur internet, sur le site internet de rdiwa.fr. Alors, bienvenue en ce jeudi soir 19h30, comme toutes les semaines, émission Feu de tout bois. Un programme assez léger ce soir, puisque voilà, c'est le printemps, les beaux jours, les oiseaux s'envolent dans les prés. Et puis voilà, en arrivant ce soir, je me suis rendu compte que je serai seule pour faire l'émission. Il y aura peut-être l'un ou l'autre invité surprise qui passera un peu plus tard, mais ça, on ne sait pas encore, c'est pas encore sûr. Donc, probablement une émission, on va écouter pas mal de musique. Et donc là, on a commencé cette émission avec un morceau de musique grecque. Extrait d'une compilation de divers chanteurs, chanteuses contemporaines de musique grecque. Et on va continuer un peu dans la même ambiance, la même atmosphère avec un morceau de Georges Moustaki. Mais lui, il chante en français, il ne chante pas en grec. Et puis, c'est dans les dernières émissions, je vous ai parlé plusieurs fois de textes qui critiquent une certaine forme de pensée écologiste. Et alors, en petit clin d'œil, je vais vous passer quelques morceaux de musique qui sont inspirés, enfin qui parlent justement d'écologie de diverses manières différentes. Donc là, on va écouter un morceau de Moustaki qui s'appelle « Il y avait un jardin ».
Jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. Avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Nous aurions pu vivre insouciants et nus. Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses. Il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos la vie man, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite,
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas,
ici tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie man, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça, ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui
roule dans tes mains,
te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde. De tout son orgueil,
sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. File bien fort, use tes cordes vocales. Hey, file bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes, tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tout les animaux, que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau,
servira la croissance de tes marmots. Servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Écoutez-moi, vous les ringards écologistes du samedi soir. Cette chanson-là vaut pas un clou, mais je la chante rien que pour vous. Vous qui voulez du beau gazon, des belles pelouses, des petits moutons, des feuilles de vigne et des petites fleurs, faudrait remettre vos montres à l'heure. Moi, je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes des boulevards, vos beaux discours, y'en a plein le dos. Y'a du soleil dans les ruisseaux. La tour Montparnasse, elle est belle, et moi j'adore la tour Eiffel. Y'a plein d'amour dans les ruelles et de poésie dans les gratte-ciels. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage. Écoutez-moi, vous les ringards écologistes des grands soirs. La pollution n'est pas dans l'air, elle est sur vos visages blêmes. Moi, j'aime encore les pissotières, j'aime encore l'odeur des poubelles. Je me parfume pas l'oxygène, le gaz carbonique, c'est mon hygiène. Moi je suis amoureux de Paname, du béton et du macadam. Sous les pavés, ouais, c'est la plage, mais le bitume, c'est mon paysage. Le bitume, c'est mon paysage.
Et voilà. Je vous avais promis quelques chansons écologistes, vous les avez eues, évidemment dans des styles un petit peu différents. Donc après Georges Moustaki, Il y avait un jardin, vous avez pu entendre le groupe Trio avec le célèbre Hymne de nos campagnes, et puis vous avez reconnu Renaud, qui est encore et toujours sans doute amoureux de Paname. Voilà, sur RDIWA 107.5 FM. Alors, j'ai un peu réécouté les dernières émissions Feu de tout bois. C'est toujours intéressant de réécouter les émissions après coup et de voir un peu de quoi on a parlé et comment. Et j'ai retrouvé un petit bout de débat qui a eu lieu il y a 15 jours en fin d'émission, où on a parlé de la question de la dette de la dette des États et à quel point finalement cette dette c'était un montage et c'était une sorte de hold-up, une manière de piller l'argent des États et donc de piller l'argent de la collectivité pour le donner à des riches, pour le donner aux banques. Et il y avait une question intéressante qu'une personne a posée, un invité qui était là, qui disait mais en parler c'est bien mais on n'arrête pas d'en parler et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça finalement? Comment on pourrait changer les choses? Bonne question évidemment. Et ben là, je ne vais pas du tout vous donner mon opinion de comment on pourrait aujourd'hui et maintenant changer les choses et faire que, par exemple, on arrête de travailler pour les banques et pour les riches, mais qu'on travaille plutôt pour nous. Mais par contre, j'ai bien envie de vous parler un peu d'histoire sociale, d'histoire des luttes, d'histoire politique, parce que je trouve que se replonger dans ce que d'autres personnes avant nous ont vécu et comment ils ont réussi à s'organiser, à penser des formes d'alternatives, des formes d'organisation, comment ils les ont mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et ben ça peut nous donner des pistes, ça peut nous donner des idées, ça peut nous montrer des écueils aussi sur comment on pourrait faire aujourd'hui. Et voilà, ça fait un petit moment que dans cette émission, j'avais bien envie d'aborder cette histoire sociale et politique par un bout ou par un autre. Voilà. Alors, j'ai pas eu le temps de préparer énormément autant que j'aurais voulu. Et puis, ce qui serait chouette, ça serait aussi éventuellement qu'on discute de ça à plusieurs personnes, qu'il y ait plusieurs points de vue différents, qu'il y ait lu des choses différentes. Voilà, donc peut-être ça se fera dans les prochains temps. Hein, si parmi vous qui nous écoutez, il y a des personnes qui se sentent intéressées par cette proposition, ben n'hésitez pas à faire signe et à vous manifester. Voilà. Et donc ce soir, pour commencer un peu finalement ce très très vaste sujet de l'histoire sociale et politique, j'ai envie de vous parler d'un auteur, quelqu'un qui a écrit des livres, des romans, des essais, mais qui a aussi été quelqu'un de très engagé dans sa vie. C'est un homme qui s'appelait Arthur Koestler, qui a vécu donc au XXe siècle, qui est né au tout début du XXe siècle, en 1905. Il est né à Budapest, donc en Hongrie. Et je trouve que c'est quelqu'un qui a eu un parcours vraiment très intéressant, qui écrit des livres qui nous racontent l'histoire des luttes sociales autour du communisme et du socialisme au XXe siècle, qui était assez lucide, assez éclairé et assez honnête finalement. Donc c'est voilà, des qualités que j'aime bien chez cette personne, en tout cas de ce qu'on peut en percevoir dans ce qu'il a laissé comme écrit. Et donc je vous en parle à partir de quoi ? Je vous en parle à partir de pas mal de ses livres que j'ai lus, donc à la fois des romans qu'il a pu écrire. Le roman le plus connu qu'il a écrit, c'est celui qui s'appelle Le Zéro et l'Infini, qui raconte en fait le parcours d'un militant communiste russe de la première heure, donc quelqu'un qui a participé aux révoltes en Russie dès 1905, enfin qui a participé vraiment à l'organisation du parti communiste russe qui a participé à faire la révolution en 1917. Et cet homme, ce militant de la première heure, eh bien, il se retrouve embarqué dans les grands procès de Moscou, les purges staliniennes du milieu des années 30. Et donc il est arrêté chez lui, il est emmené dans les caves d'une prison par l'ancêtre du KGB. Je ne me souviens plus d'ailleurs là maintenant comment il s'appelait, mais je pense que ça s'appelait pas encore le KGB à l'époque. Et c'est tout finalement toute la réflexion intérieure de cet homme qui se demande comment des idéaux de justice, des idéaux de liberté, de solidarité ont pu mener à une situation aussi horrible, aussi atroce de totalitarisme, de répression, de meurtre, enfin des choses absolument épouvantables. Et c'est assez marquant comme livre, en fait, parce que c'est donc tout le dialogue intérieur de cet homme qui est dans sa cellule de prison et qui réfléchit, qui essaye de comprendre comment les choses en sont arrivées là. Donc voilà, il y a par exemple ce roman-là. Il a écrit d'autres romans comme Spartacus, qui là ne raconte pas vraiment l'histoire du XXe siècle, mais raconte l'histoire de la révolte des esclaves à l'époque romaine. Il a écrit aussi un autre roman assez passionnant qui s'appelle La Tour d'Ezra, et qui raconte un peu l'épopée des premiers kibbutz en Israël, qui à l'époque était la Palestine, dans les années 20. Et donc, il raconte l'épopée de ces jeunes juifs d'Europe qui partaient là-bas, qui partaient s'installer sur les terres en Palestine, et avec des idéaux justement très, très communistes à l'époque. Les personnes qui ont lancé ce mouvement sioniste, il y en avait beaucoup qui étaient très radicaux dans leur pratique de vie, dans leur engagement. Donc voilà, un autre roman intéressant. Et puis, Arthur Koestler, il a écrit aussi des... Comment on va dire ça? C'est aussi des romans, mais inspirés vraiment de sa vie, de ce qu'il a vraiment vécu. Et les deux qui m'ont le plus marqué, c'est un livre qui s'appelle « Un testament espagnol », puisque Arthur Koestler, il était journaliste, en fait. C'est le métier principal qu'il a exercé dans sa vie, en plus d'être écrivain. Et donc, en 1937, il est parti, il s'est rendu en Espagne pendant la guerre civile, pendant la Révolution espagnole. Et il était à Malaga au moment où les troupes franquistes ont pris la ville. Et donc, en fait, il ne s'est pas enfui, en quelque sorte, il ne s'est pas enfui à temps. Et il a donc été pris par les troupes de Franco, il a été emprisonné et il a passé trois mois dans une cellule de prison à attendre la mort, en fait, parce qu'il était condamné à mort. Et donc chaque nuit, il s'attendait à être exécuté. Et donc chaque nuit, dans cette prison où il était, il entendait les pas des gardiens qui venaient chercher les personnes à exécuter. Il y a pas mal de gens qui ont été exécutés au cours de toutes ces nuits. Donc on peut imaginer son angoisse, on peut imaginer toutes les pensées, toutes les réflexions qui ont pu le traverser durant cette période. C'est d'ailleurs à ce moment-là, apparemment, qu'il a eu l'éclair, l'intuition, enfin les idées qui l'ont mené à écrire ce roman « Le zéro et l'infini », où il parle du dialogue intérieur d'un homme qui est en prison. Et donc il a eu de la chance, hein, puisque s'il a pu écrire ce roman, c'est qu'il n'a pas été exécuté finalement. Et comme à ce moment-là, il avait la nationalité britannique, il a finalement été échangé contre d'autres prisonniers de guerre franquistes et il a été libéré. Donc c'est ça qui lui a permis de survivre. Voilà, donc ça c'est un de ses romans inspirés de sa vie. Et puis un autre roman qui est aussi très intéressant, c'est celui qui s'appelle « La lie de la terre ». Et ça nous parle encore plus parce que ça parle de la France en 1939, en 1940. À cette époque-là, Arthur Koestler y vivait à Paris. Il était, parce que bon, c'est quelqu'un qui était très cosmopolite, très globetrotteur, qui en quelque sorte n'avait pas de patrie ni de frontières, qui a vécu dans plein de pays différents, qui parlait beaucoup de langues différentes, qui a eu plusieurs nationalités successives. Donc c'était, bon, en même temps c'était bien dans le ton de l'époque, hein. C'était, il y en a eu beaucoup comme lui, en fait, des penseurs, des intellectuels, des militants et des militantes qui voyageaient comme ça beaucoup à travers l'Europe et même à travers le monde, aux États-Unis ou en Asie ou en Afrique, enfin un peu partout, et qui parlaient de nombreuses langues, enfin qui étaient très reliés entre eux, entre gens de pays différents. Et donc voilà, il faisait partie de ces gens-là. Et donc en 1939, au moment de la déclaration de la guerre entre l'Allemagne et la France, eh bien, il était à Paris. Et comme la plupart des étrangers qui étaient fichés pour avoir des activités politiques, il était tout simplement arrêté très rapidement. Et il a été envoyé dans un de ces merveilleux camps de concentration français, qui est le camp du Vernet dans les Pyrénées. Qui n'est pas super célèbre, mais dont on parle quand même un petit peu maintenant. Hein. Je pense que ça a été longtemps quelque chose qui a été caché, qui a été secret, dont on n'a pas trop voulu faire étalage, puisqu'à la fin de la guerre, comme la France se glorifiait d'avoir été dans le camp des bons, dans le camp des anti-nazis, et ben elle ne s'est pas glorifiée d'avoir interné toute une série de gens, d'avoir notamment interné des réfugiés anti-nazis allemands qui étaient en France à ce moment-là, et que la France a livré à l'Allemagne, a livré aux bourreaux nazis, et qui ont été pour la plupart exécutés. Elle ne s'est pas non plus glorifiée d'avoir livré les révolutionnaires espagnols, qui étaient également réfugiés en France, et dont une série ont aussi été internés dans ces camps de concentration. Bref, voilà, une page d'histoire pas très glorieuse, et qui est bien racontée dans ce livre « La lie de la terre » par Arthur Koestler. Voilà, un livre que je vous conseille de lire, qui n'est pas forcément très facile à trouver. Je pense que c'est un livre qui ne doit pas avoir été réédité, donc ça se trouve plutôt en seconde main, quoi, chez des bouquinistes ou sur Internet. Mais
voilà, c'est assez éclairant et il raconte, voilà, il a, je trouve, une manière d'écrire, une manière de décrire les événements et de raconter les choses qui est assez, comment dire ça, assez précise et réaliste. Voilà, on a l'impression qu'avec lui, qu'on a un peu participé finalement à ces divers événements. Et donc, dans ce dernier roman, il raconte finalement assez concrètement quoi, comment ça s'est passé dans ce camp de concentration, c'était quoi les conditions de vie, comment les gens ils étaient maltraités, ils n'étaient pas soignés, comment il y en a toute une série qui sont morts. Et il parle beaucoup de l'état psychologique, quoi, finalement, de, de gens qui avaient lutté pour des idéaux et qui se retrouvaient comme ça, parqués dans des conditions très dégradantes, autant psychologiquement que physiquement. Donc voilà, un livre intéressant à lire. Alors, je vais m'arrêter là pour le moment pour cette introduction. On va s'écouter un petit morceau de musique jazz et puis je reprendrai la suite de mon récit un petit peu plus tard. Voilà. Oui, voilà, suite de l'histoire. Donc, je suis en train de vous parler de la vie et de la bibliographie, des œuvres qu'ont écrites un homme qui s'appelait Arthur Koestler, qui a vécu au XXe siècle, qui est né en 1905 et qui est mort dans les années 80, je crois, en 1983. Voilà. Et donc je viens d'introduire un peu le sujet en vous parlant des différents livres qu'il a écrits. Bon, il en a écrit beaucoup plus que ça, mais je vous ai parlé de ceux qui m'ont le plus marqué. Et en fait, là, maintenant, je vais vous et plus particulièrement d'une biographie de lui qui a été écrite par quelqu'un qui s'appelle Michel Laval et qui s'intitule « L'homme sans concession, Arthur Koestler et son siècle ». C'est un gros livre bien épais et assez passionnant parce que très très bien documenté. Et donc ce qui est vraiment intéressant avec cette biographie, c'est que l'auteur, il nous raconte vraiment, il arrive à entremêler d'une manière assez éclairante et très, comment dire ça, très logique et plutôt bien écrite la vie d'Arthur Koestler, les différentes étapes de sa vie et les différentes, comment dire ça, ambiances et enjeux historiques des différents moments où les choses se passent. Et donc il arrive à nous retracer très très bien l'atmosphère de l'Europe quand Koestler est tout petit, quand il est enfant, quand il y a la guerre 14-18 qui éclate, et comment cette guerre, elle a sonné vraiment le glas d'une période de prospérité, de paix, on va dire, dans des grandes régions d'Europe, notamment là où il vivait, donc là où il est né, à Budapest, et dans tout l'Empire austro-hongrois, qui était une grande surface de territoire et qui a complètement éclaté après cette guerre. Cette guerre qui a tué beaucoup de personnes et qui aussi, comment dire ça, on va dire, qui a marqué finalement l'entrée dans une forme de modernité de la société industrielle plus avancée, quoi, qui a marqué une sorte d'étape. Et donc la vie d'Arthur Koestler, ce qui est intéressant, c'est que donc quand il était jeune, lui, il est né dans une famille juive, ce qui n'avait pas beaucoup d'importance pour lui à l'époque, comme pas mal de juifs en fait. Hein. Il y avait beaucoup de juifs qui n'étaient pas du tout religieux et qui s'attachaient pas particulièrement à cette identité. Et en même temps, c'est une époque où il y avait le début du mouvement sioniste et le début d'un mouvement de personnes qui pensaient que ça avait assez duré comme ça, les pogroms, les ségrégations, le racisme, etc. envers les juifs, et qui commençaient déjà à l'époque à prôner la création d'un état juif quelque part dans le monde. Et il y avait des débats d'ailleurs sur où cet état pourrait se situer. Et donc cette idée de créer un état juif sur le territoire de la Palestine au Moyen-Orient, c'est une idée qui date de la fin du 19e siècle en réalité. C'est pas une idée qui a surgi d'un seul coup à cause de la Deuxième Guerre mondiale et de la Shoah en fait. C'est une idée qui est arrivée beaucoup avant. Ce qui est intéressant dans tout ce que nous raconte ce biographe par rapport à ce mouvement sioniste, c'est de voir qu'il y a des personnes qui déjà dans les années 20 avaient anticipé le fait qu'il pourrait y avoir une extermination de masse des juifs en Europe. Et ça semble assez fou, en fait, d'imaginer que déjà dans les années 20, des personnes ont pu pressentir ça, et avec raison. Et donc ces personnes-là se sont organisées et se sont dit il faut organiser la fuite, il faut organiser l'exil. Et donc Arthur Koestler, quand il était jeune étudiant à Vienne, il a rencontré ses sionistes et il a décidé d'abandonner ses études et de partir en Palestine, rejoindre un kibbutz et de participer finalement à ce grand élan de construction et qui était aussi révolutionnaire en même temps. Bon, il s'est assez vite cassé les dents parce que c'était quand même plutôt un intellectuel qui n'avait pas fait grand-chose de ses mains jusque-là dans sa vie. Donc quand il s'est retrouvé dans le désert à devoir gratter la terre 10 heures par jour sous un soleil brûlant, assez vite il s'est rendu compte qu'il n'était pas tout à fait capable de faire ça, et de toute façon les gens du kibbutz où il se trouvait lui ont fait sentir au bout de quelques semaines qu'il valait mieux qu'il s'en aille parce qu'il n'allait pas pouvoir convenir finalement, il n'allait pas pouvoir tenir le coup, donc il est reparti. Ça a été bon, forcément une période un peu de crise pour lui puisqu'il avait abandonné ses études, il était parti et il se retrouvait là-bas en Palestine un peu aéré, sans argent, sans travail, etc. Bon, donc il y a toute cette partie de l'histoire qui est racontée, la naissance de la ville de Tel Aviv, par exemple, qui est assez bien racontée dans ce livre. Et bon, de fil en aiguille, il a fini par trouver un boulot de journaliste pour un grand journal allemand. Et puis finalement, il est retourné en Europe, il est retourné en Allemagne, il est retourné à Berlin. Il avait un poste assez élevé, hein, parce que c'était un scientifique, Arthur Koestler. En fait, ses études qu'il avait commencées à la fac, c'était plutôt des études de mathématiques et de physique. Et donc, il dirigeait le département scientifique d'un grand journal allemand de l'époque. Et c'est là, à ce moment-là, donc fin des années 20, début des années 30, qu'il a fait connaissance avec le mouvement communiste, ou plus exactement qu'il a été lui-même touché par cette idéologie communiste, par cette foi dans, on va dire, un changement possible de société, un changement économique profond qui n'organiserait plus une société capitaliste avec l'exploitation d'une grande masse de travailleurs par quelques privilégiés, mais une forme finalement de réappropriation des moyens de production, des outils de travail, des conditions d'existence et une forme de libération de la vie humaine. Voilà. Beaucoup de personnes croyaient en cet idéal à l'époque, hein, il n'était pas le seul, c'était un grand mouvement, un grand mouvement de pensée et d'action en Europe et partout dans le monde. C'était un mouvement très large et qui était d'autant plus renforcé par l'existence de l'Union soviétique à l'époque qui avait une, comment dire ça, bonne presse, qui était, voilà, il y avait plein d'intellectuels qui partaient visiter l'Union soviétique, qui allaient étudier dans les écoles là-bas et qui en ramenaient des récits pour la plupart très positifs et très, très enflammés et très idylliques sur ce qui se passait là-bas. Voilà, donc en 1930, il prend sa carte au Parti communiste et il se retrouve à livrer finalement des informations auxquelles il a accès par son métier de journaliste au Parti, informations qui servent à différents choix d'organisation, choix stratégiques, etc. Et assez rapidement, au bout d'un an ou deux, il se fait virer de son boulot, quoi. Parce que forcément, être dans un grand journal de la presse, on va dire, bourgeoise, en étant membre du Parti communiste, c'était pas très bien vu, c'était pas très bien accepté. Donc on lui a fait gentiment comprendre qu'il fallait qu'il s'en aille et qu'il aille faire autre chose, quoi. Voilà. Et ce qui est assez passionnant, en fait, dans son parcours, c'est qu'il s'est donc engagé pour cet idéal communiste. Bon, ça n'a pas été, on va dire, ça n'a pas été un grand militant très activiste, hein. Il s'est plutôt engagé, on va dire, intellectuellement. Donc plutôt à faire des conférences, à écrire des articles et des choses comme ça. Mais il y a cru vraiment beaucoup. Et donc, assez vite après ça, en 1933, il est parti, comme beaucoup de gens à l'époque, faire son petit voyage en Union soviétique. J'ai dit son petit voyage, c'est pas vraiment un petit voyage, c'est un peu ironique, mais disons que c'était un peu à la mode, que beaucoup de gens ont fait ça. Et donc lui, il est allé, en fait, il a passé l'hiver 1932-1933 en Ukraine. Et donc, en fait, c'était l'hiver de la grande famine, en fait, de la grande famine où il y a des millions de paysans partout en Ukraine et plus largement dans d'autres états autour de l'Union soviétique qui sont morts de faim et qui sont morts de faim non pas à cause de catastrophes climatiques ou de problèmes on va dire physiques, naturels quelconques, mais comme ça a été vraiment, ça il le raconte très bien dans ce livre, ça a été quelque chose de complètement orchestré, voulu et planifié par Staline, en fait. Cette manière d'affamer les paysans, d'affamer les koulaks, qui étaient, aux yeux de Staline et aux yeux de sa vision, finalement, du prolétaire, de la masse des prolétaires, c'était les ouvriers, les prolétaires des villes, qui étaient vus comme l'avant-garde de la Révolution, comme le soutien de la Révolution. Et donc les paysans, les koulaks, ils incarnaient une mentalité, on va dire, assez ancrée dans le passé, dans les traditions, dans tout un rapport à l'histoire et au passé assez vivant et assez enraciné. Et donc, Staline s'est dit que l'existence de millions de paysans comme ça, qui étaient avec une mentalité trop attachée au passé à son goût, était une menace pour l'évolution du développement de la nation et de l'économie soviétique. Et donc, froidement, il a décidé de faire mourir, mais vraiment des millions et des millions de gens, en réquisitionnant toute la nourriture, tout le bétail avant l'hiver 1932. Et donc, les gens n'avaient plus rien à manger et c'était absolument épouvantable. Donc, Arthur Koestler, il s'est retrouvé à cette période-là en Ukraine. Il a assisté à tout ça. Et c'est là que son grand idéal communiste a commencé à se fissurer et qu'il a commencé à réfléchir finalement au décalage entre les grandes idées, les grands idéaux et comment on peut en faire la publicité et la réalité, en fait. Et là, le décalage était si énorme, si flagrant qu'à un moment donné, il pouvait pas accepter de voir ça et de le taire pour ce qui était mis en avant comme argument pour servir la cause de la Révolution, quoi. Et donc, cette première mise en face d'une réalité contraire à ce qui s'imaginait, contraire à ce qu'on en disait, c'est ça qui a nourri toute sa réflexion et ce qui était un peu le cœur de la réflexion de sa vie, de se demander pourquoi les êtres humains, ils ont tellement besoin de croire en des choses d'une manière comme ça, presque religieuse, de croire en des idéaux politiques d'une manière religieuse et qui va les pousser, en fait, à toutes les extrémités, c'est-à-dire à finalement faire des choses absolument contraires au but qui s'était donné au départ, sous prétexte d'utilitarisme politique finalement. Parce que c'était vraiment la pensée à l'époque, c'était on ne peut pas critiquer l'Union soviétique, sinon ça menace la force finalement de l'élan prolétaire international, enfin voilà, des choses comme ça, ça menace la force finalement des équilibres, quoi, parce que c'était l'existence de ce gros pays en plein développement économique qui prônait une société communiste, c'était finalement un soutien aussi pour les luttes sociales ailleurs dans le monde. Et donc, à l'époque, on disait qu'il ne fallait pas critiquer Staline, qu'il ne fallait pas critiquer l'Union soviétique, sinon on allait être contre-révolutionnaire, finalement. Voilà. Et donc, lui, il a mis quand même assez longtemps hein, avant d'être conséquent par rapport à ce qu'il ressentait. À ce qu'il ressentait comme mensonge, comme décalage entre ses idéaux et la réalité. Et c'est seulement en 1938 qu'il est vraiment sorti du rang. Donc là, je vais vous lire un petit extrait du livre pour que vous ayez une idée plus précise de comment lui, il écrit et de comment il vivait les choses directement. Donc il nous raconte « Je suis allé au communisme comme on va à une source d'eau fraîche et je l'ai quitté comme on s'extirpe d'une rivière empoisonnée, jonchée de débris, de villes mortes et de cadavres de noyés. » En avril 1938, Arthur Koestler sortit des rangs, abandonné par la foi, solitaire et désormais apostat. Sa rupture avec le Parti communiste était décidée. Au cours d'une conférence sur la guerre d'Espagne organisée dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés à Paris par l'Association des écrivains allemands, il refusa de soumettre le texte de son intervention aux représentants du parti. Il déclara qu'il ne parlerait ni contre le POUM ni contre les anarchistes, qu'il ne porterait aucune accusation et ne prêterait la main à aucune polémique pour les discréditer. Installé à la table du conférencier, il énonça les vérités iconoclastes, les vérités humaines, dont, la mort à la porte, il avait reçu la révélation dans la pénombre de sa cellule de Malaga. Nul mouvement, parti ou personne ne peut revendiquer le privilège de l'infaillibilité. Il est aussi fou d'apaiser l'ennemi que de persécuter l'ami qui poursuit les mêmes fins que vous par des moyens différents. À la longue, une vérité nuisible vaut mieux qu'un mensonge utile. Voilà, donc ça c'est le texte de son intervention à l'époque, quand il a décidé publiquement de critiquer la pensée majoritaire des intellectuels de gauche, des intellectuels communistes. À la fin de son intervention, dont il constata que l'effet fut à peu près le même que s'il en avait proclamé devant un auditoire nazi, la surprenante nouveauté que les hommes étaient nés égaux, les visages se fermèrent. Arthur Koestler comprit à l'instant qu'il venait de commettre l'irrémédiable, que ses propos avaient quelque chose d'iconoclaste, qu'il résonnait comme une déclaration de guerre, et le sentiment immédiat qu'il en éprouva fut celui d'un véritable désarroi. Quelques jours plus tard, l'émotion dissipée, il s'attela à la rédaction d'une lettre de démission, qu'il travailla toute la nuit avec une sorte de joie violente, une jubilation intense, analogue à celle qu'il avait déjà ressentie à Vienne lorsqu'il avait préféré la cause sioniste à ses études d'ingénieur, ou plus tard à Berlin lorsqu'il avait sacrifié sa carrière de journaliste à la révolution communiste. Arthur Koestler venait une nouvelle fois de brûler ses vaisseaux. À l'aube, dans la pâleur du jour qui pointait sur Paris, l'homme qui contemplait le ciel et s'enivrait de sa lumière naissante, comme un prisonnier qui sort d'une forteresse obscure, n'était plus le militant Ivan Steinberg. Donc ça, c'était son nom, on va dire son nom de code pour le parti, qui venait de vouer 7 années de sa vie à une espérance naufragée, mais un homme qui cherchait au fond de son âme libérée un nouveau sens à son existence, qui saisissait au plus profond de ses illusions perdues la cruauté et le danger de son temps, qui venait de décider de ne plus se compromettre, de ne plus rien concéder, de ne plus succomber aux vérités révélées, de n'abdiquer devant aucun dogme, de préserver son esprit de la foi fanatique, de n'obéir qu'à sa conscience, de tout soumettre à la seule force de son jugement, et qui comprenait que pour cela, pour toutes ces raisons, il s'exposerait désormais sur les fronts conjugués des deux grandes terreurs modernes et encourrait leur persécution commune. Après un autre petit morceau de jazz dont je n'ai pas le titre à vous donner, mais c'est quelque chose d'assez connu, je crois que c'est The Girl from Ipanema. Voilà, c'est un morceau assez classique de jazz. Je vais terminer cette longue explication, ce long récit concernant la vie d'Arthur Koestler. Arthur Koestler, né en 1905 à Budapest et mort en 1983 en Angleterre. Voilà. J'étais en train de vous raconter le moment où Arthur Koestler, en 1938, a lu un discours, a lu un texte publiquement à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, pour critiquer l'aveuglement et la soumission à des idéologies, en fait, et au mensonge, finalement, qui est contenu dans le principe même des idéologies, et au désarroi qui s'en est suivi. Parce que forcément, pendant cette année, on a été militant infaillible, militant complètement engagé, militant complètement convaincu, et qu'à un moment donné, on doit renoncer à sa foi, mais du coup aussi renoncer à la force collective qui est liée à tout un mouvement politique assez puissant à l'époque. Et ben, c'est quelque chose de pas très facile à vivre. Et ben c'est ça qui est intéressant finalement dans ses livres, dans ses écrits et dans les réflexions qu'il a partagées et qu'on peut encore lire aujourd'hui, c'est qu'il a eu finalement l'honnêteté et le courage d'abandonner cette foi qui était un mensonge pour essayer de comprendre ce qui avait pu mener jusque-là. Et je terminais le récit en disant que finalement, le fait... en tant que militant communiste, de critiquer le stalinisme, de critiquer l'Union soviétique à l'époque, ça a fait que finalement il a été rejeté de partout, parce qu'il n'a pas rejeté le communisme pour défendre le capitalisme, pour défendre l'ordre de la propriété et de l'exploitation. Il a critiqué l'Union soviétique et le stalinisme au nom justement d'un idéal plus grand et dans lequel il croyait encore. Donc je vais encore vous lire un dernier extrait de cette biographie. Donc je vous rappelle le titre de cette biographie, L'homme sans concession, Arthur Koestler et son siècle, écrit par Michel Laval. C'est un gros livre très consistant qu'il faut un petit peu de concentration et de courage pour lire, hein, parce que c'est assez dense, mais c'est assez passionnant en même temps, je vous le recommande. Et c'est un livre que vous pouvez trouver à la médiathèque de Die. Donc si vous habitez à Die et dans les environs, évidemment, si vous nous écoutez depuis Paris ou depuis Bordeaux sur Internet, c'est un peu plus difficile. Mais j'imagine que vous pourrez d'autant plus facilement trouver ce livre que vous êtes dans une grande ville. Donc je vous lis encore un petit extrait d'un chapitre qui s'intitule « Mensonges et passions ». Et ça commence par une citation de George Orwell, qui fut aussi un grand critique, un grand dénonciateur des idéologies totalitaires du XXe siècle. Et donc, ce qu'il nous dit, George Orwell, « Le péché de pratiquement tous les gens de gauche à partir de 1933 est d'avoir voulu être antifasciste sans être antitotalitaire. » Donc, le plus étrange vint de la persistance de l'illusion. Pendant plusieurs mois après la soirée de Saint-Germain-des-Prés et la nuit fatidique au cours de laquelle il rédigea sa lettre de démission, Arthur Koestler erra dans une sorte de « no man's land » idéologique. Une zone grise peuplée de militants perdus qui persistaient à croire qu'en dépit de tout, malgré les anathèmes et les exclusions, malgré Staline, les procès, les purges et la terreur, malgré la police secrète et son immense armée de mouchards et de tortionnaires, malgré la bureaucratie triomphante et les plans inhumains, malgré la liquidation méthodique des élites et l'asservissement des masses, malgré les camps d'esclavage et des persécutions incessantes, l'Union soviétique constituait, malgré tout ça, le seul pays foncièrement progressiste et représentait encore le dernier et seul espoir dans une planète en pleine décomposition. Comme Arthur Koestler, ils étaient une multitude tombée dans le même malheur, qui dérivait comme des naufragés, éperdument accrochés à l'épave éventrée de leur espérance, qui voulaient encore croire que le sort de la révolution n'était pas irrémédiablement joué, que le cours des choses pouvait encore s'inverser et qu'aux épreuves si terribles, si impitoyables, si noires qu'elles fussent, succéderaient des temps meilleurs, où l'histoire retrouverait son mouvement naturel, sa marche logique, le temps prédit par Marx du retour de l'homme à lui-même, de la fin de l'aliénation et de l'avènement du communisme. Une foi naît en vous par un acte apparemment spontané, comme le papillon surgit de son cocon. Mais la mort d'une foi est progressive et lente. Même après ce qui semble le dernier frémissement des ailes fatiguées, il y a encore un sursaut, encore un faible soulèvement. Toute foi sincère montre ce refus obstiné de mourir. En cette fin d'année 1938, prise entre nostalgie et espoir, rêve et cauchemar, mensonge et passion, la foi d'Arthur Koestler agonisait lentement. Installé à sa table de travail, libre désormais de toute attache partisane, livré à lui-même, sans alibi ni excuse, il hésitait encore sur la voie à suivre, sur la direction à prendre. Voilà, voilà. Eh bien, je vais en rester là pour ce soir, sur cette lecture et sur ce récit. Mais, comme je vous le disais au début, j'espère avoir l'occasion, dans de prochaines émissions de Feu de tout bois, de vous parler encore d'histoire sociale, de vous parler encore de personnes qui ont écrit des textes marquants sur cette histoire, qui ont produit des réflexions intéressantes et inspirantes sur ce qu'ils ont vécu, voilà, qui ne sont pas soit contentés de vivre des choses sans en laisser de traces et sans y réfléchir, ou qui ne se sont pas contentés de théoriser des idées et des projets et des propositions sans rien vivre, mais qui finalement ont réussi à articuler ces deux positions, à la fois croire en des choses, avoir des idées et puis les mettre en pratique et voir ce que ça donne, et encore mieux, nous laisser des traces de leur expérience. Voilà, voilà. Alors, on va écouter maintenant un morceau de musique. Je vais regarder ce que c'est, car je ne sais pas. Oui, on va écouter un petit morceau de musique klezmer, qui est finalement un peu de circonstance par rapport à la vie de ce personnage. Et voilà, fin d'un morceau de musique du Budapest Klezmer Band. Je vous disais bien que c'était adapté au personnage. Et alors maintenant, eh bien, il nous reste une demi-heure d'émission. Et je vous propose de vous faire écouter une émission de radio qui vient de Radio Canu à Lyon. Une émission qui s'appelle « On n'est pas des cadeaux ». Et qui fait une émission spéciale sur le slam transpédiguine. Voilà, tout un programme. Je n'ai pas écouté cette émission avant, j'en ai écouté juste des petits morceaux vite fait, donc je découvrirai en même temps que vous ce qu'il y a dedans. Mais donc je vous propose d'écouter ça maintenant. Et si jamais cette émission vous intéresse et que vous avez envie d'en écouter d'autres, vous pouvez retrouver cette émission de radio et d'autres émissions de radio à connotation féministe sur un site qui s'appelle radiorageuse.net, dont je vous ai déjà parlé sur les antennes de RDWA dans cette émission Feu de tout bois. Voilà, bonne écoute.
À Noël, quand tu descendras du ciel.
Joué dont tu as rêvé, petit garçon, il est l'heure d'aller se coucher.
On n'est pas des cadeaux, l'émission transpédéguine et féministe.
On n'est pas hétérosexuel. On le devient pas toujours.
Le genre, ça se construit, le corps aussi.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Rôle de princesse, vie de cauchemar.
On n'est pas des cadeaux.
Une émission transpédéguine et féministe.
Sur Radio Canu.
La plus des radios.
La plus rebelle des radios.
Votre hétérosexisme n'a fait que nourrir notre rage. Votre haine n'a fait qu'embellir nos amours. Aujourd'hui plus que jamais, nous ne voulons ni de votre sexualité bénitier, ni de votre normalité, ni de votre ennui, ni de votre aliénation, ni de votre intégration dans ce système patriarcal, capitaliste, raciste, nourri de la domination des unes sur les autres.
Une émission transpédéguine.
Ouais, surtout transpédéguine.
Bonjour, bienvenue dans On n'est pas des cadeaux, avec aujourd'hui une émission très spéciale, parce qu'on a invité le groupe Slam de Fond pour faire une heure de slam en direct, et on a également invité viscéralement Déviant, un groupe de hip-hop, et Claudine Lebec, qui fait des chansons à texte, chansons françaises.
Salut.
Salut.
Bonjour.
Alors, pour commencer ce direct, comme toute l'émission, bien évidemment, toutes les personnes qui sont présentes sont féministes. Le premier texte sera un hommage.
Celle qui, au fond d'un désert, m'a appris à entendre la différence entre le tac-tac-tac d'un AK-47 et le bing-bing-bing du M16.
À celle qui chargeait son arme d'idéaux, crachait des balles et non pas que des mots, des rafales et non pas que des beaux discours, sortira-t-elle un jour ?
Celle qui tirait la gueule dès le matin, crachait son amertume sur sa prise d'âge, sa gueule de bois, sa séropositivité. Celle qui me parlait d'art, je lui parlais collectif-actif, au final nos corps se comprenaient.
Celle qui rit quand on lui dit qu'elle devrait avoir honte. Celle qui a fêté son divorce. Celle qui parle plus fort quand on lui dit de se taire.
À celle qui se débat avec sa cafetière et son paquet de tabac. Celle qui se noie dans les deuils à la chaîne, qui se raccroche à la boîte de médoc et au meuble Ikea. À celle qui gardait des sacs, de sacs, de sacs, dans des boîtes, de boîtes, de boîtes.
À ma sœur garçon manqué, à nos conneries de gosses tarés. Au t-shirt large, au queue de cheval, au kiff de ne pas être rival. À Renaud partagé en concert et à ses disques les soirs d'hiver. À celle qui flippait de son père et pour qui j'aurais, barre de fer à la main, défiguré le premier con qui s'aviserait de l'emmerder. À sa petite récemment née, condensée de ce que nous étions. À cette filleule que je sens nièce et à cette bouille de petits canons. Aux expressions de son visage dans lesquelles je la revois elle, avec à peine moins que son âge, quand nos enfants savaient des ailes.
Celle qui m'a posé les mots pour se faire entendre. Celle qui m'a articulé les images en son off.
À celle qui se lève tôt pour laver la merde des autres, qui frotte les taches des capes le matin après l'aube dans le bureau des boîtes, qui vient boire le café exténué, une cause de ses patrons déglingués, qui dort son couteau sous l'oreiller chaque soir, mais qui m'appelle quand même lorsqu'elle broie du noir. Celle qui m'impressionne dans sa détermination, se prend des claques, se relève des boîtes, qui respecte pas les lois dictées et qui veut pas se marier, qui apprend à lire à 30 ans et qui met tous les mecs dans le vent, qui a sa vie droit devant.
À celle qui avait, gravée dans sa peau, visible, la promesse des possibles, toutes celles de passage qui avaient dans la poche les bonnes pages au bon moment. À celle qui m'a appris la saveur du mot non, qui a rendu gratuit et précieux chaque oui.
Celle qui a jailli de la cuisine dans un bruit de vaisselle fracassée et m'a dit d'un ton contrarié, ma corde à sauter, elle a fait une bêtise.
À celle qui est née quand elle a tué, refusant la culpabilité qui ronge dans un monde sourd à nos colères qui grondent. Condamnée à mourir d'ennui, elle m'a fait mourir de rire derrière les murs de l'oubli.
Celle qui, pleine d'énergie, sens de la déconnade, de la jugeote, de la propos, des remarques taquines qui grattent dans le sens du poil, tu penches parfois dans le sens des larmes. Celle qui investit énergie féministe dans groupe gros gars, transforme sueur sexiste de chaque jour en bouffée d'air frais, aromatisée d'ironie.
Celle qui, avec classe, pour sa classe, me rappelle qu'il faut que j'apprenne à me taire quand je parle à sa place. Celle qui déteste tellement la vie qu'elle a peur de mourir. Au poisson rouge en mini-short, à qui je confierai ma vie mais pas mes clés. La sorcière aux tisanes, qui vous fait flipper parce qu'elle a oublié d'être hypocrite. La gaufrette qui casse des murs avec sa tête. C'est jamais le mur qui gagne. Le nounours qui casse des genoux et qui fait pilier de femme quand on est bourré.
Celle qui s'est oubliée, celle qui se souvient, celle qui écoute même les petits riens.
À celle qui, un doux mois d'été, m'a révélé ce que j'étais. À ses caresses, à mes frissons, à nos émois adolescents. Au temps gagné qui fut perdu et qui façonne mon vécu. À son cran et à son courage de tenter sa chance à 15 ans. À ma peine et à mon naufrage d'avoir vu échapper le temps.
Celle qui a pris un visage d'hétéra coincé jusqu'à celui d'une alliée décomplexée. Celle qui, après avoir touché du bout du doigt, je commence à appréhender de vive voix.
À celle qui est devenue celui, contradiction, une autre issue pour supporter la vie. Il était elle, il n'est pas il est féministe enragé, zigzag dans un monde normé, que je réconforte comme je peux quand il craque ses pensées tout en vrac.
À celle qui collectionne les tableaux, les plannings sur les murs de leur cuisine.
Celle qui m'a fait dire mon safe word. Celle que je pourrais grave kiffer si elle avait envie de me le faire dire. Celle qui m'a remis un stylo dans la main quand elle a senti qu'un stylo, ça compte plus pour moi qu'une cravache.
À celles qui m'ont transmis notre histoire lesbienne, avec ses codes, ses martyrs, ses images, ses réseaux, ses idoles et ses mots.
Celle qui affronte le courage à son cou, ses envies et ses idées. Celle qui pose, propose, dispose de ses idées avec tact et témérité. Celle qui clame droit ses positions sans concession.
Celle qui les prend tous, un par un. Celle qui noie les caméras voyeuses en leur crachant dessus. La rouge qui t'en mettrait plein la gueule, si elle avait de la répartie. Celle qu'on dit à peu près aussi douce qu'une lime à bois. Celle avec ses mains de poney, qui maniait pourtant très bien le fouet. Celle qui mord quand on la caresse avec condescendance dans le sens du poil.
À celle qui sait danser du haut des omoplates, sa rage, ses doutes et son vécu. Elle qui se met à nu, d'un geste.
À celle qui fut mon tout, mon moi, une fusion déconcertante. Le feu brûlant de l'amour fou, la porte du placard toujours debout. Au rendez-vous que j'ai manqué, pour une seconde de sa présence, et au besoin qu'elle exprimait de me garder dans cette transe. À ce que j'ai compris de moi dans cette période un peu troublée, définit ce que je ne veux pas, même si c'est avec l'être aimé. À la lueur de son regard, au pli déterminé de son front, à la courbe de sa mâchoire et à l'odeur de son savon.
Celle qui craignait du fond de ses meubles, s'en est sortie avec humour et émotivité. Celle qui, dans son 9 mètres carrés, pendant 2 mois, pliée, serrée, se créa des voix qui collaient pas pour au-delà.
À la boutique intérieure qui kiffe le beurre, rêve de Mercedes-Benz sans ambition, Miss Platinum en boucle sur Dailymotion, Gwyn Acha non m'excité pour valeur. Celle qui me comprend quasi tout le temps, quand je lui balance tous mes tourments.
À celle qui voulait vivre 253 ans, qui conjurait le sort avec son âme d'enfant. Sa première cigarette pour fêter son veuvage, avec elle, j'ai appris à ne pas être sage.
Celle qui m'a fait constater qu'un gode ceinture, c'est beaucoup plus ergonomique quand elle le porte sur sa cuisse.
À celle que j'ai déjà dit à vider le vin dans l'évier pour éviter la violence de ses parents. Ping-pong, les baffes volaient à la vitesse du vent. À la première fois qu'on a fait le mur, à nos premières cuites, à nos murmures à pas d'heure, à nos premiers flirts, à la tendresse qui nous heurte. À la douleur de vivre, déjà si vive.
À celle qui, la première, mégot, chemise, cow-boy, mes sens en déroute et mon cœur à l'envers, chamboula mes repères binaires.
À celle qui m'a taillé quand j'ai transitionné, elle avait peur, elle m'a brisé le cœur. Celle qui, après quelques années dans la cuisine, cette féministe à qui je n'osais plus me confier, a trouvé des mots comme jamais pour me rassurer.
Celle qui s'en va vociférant, le front couronné d'un incendie, qui critique, qui radote et qui pleure. Idole intouchable, qui ne fait que râler là où d'autres reproduisent. Celle qui affame les hamsters et coupe les mille pattes, inépuisable briseuse de moules à gaufres.
À celle qui parlait avec ses tripes. Mon cœur vibrait à chaque souffle, à chaque mot. Le slam, c'était son trip. Elle se bat autant qu'elle souffre, donne sans compter jusqu'à son dernier souffle. À cause de mal qu'on ne peut élever à l'état d'homme, la corde autour de ses états d'âme. Depuis, je slam, toujours au bord des larmes.
Voilà, c'était un famage pour introduire cette émission. Merci beaucoup. Est-ce que quelques personnes veulent bien présenter le groupe et l'initiative qui est Slam de fond ?
Alors, avant qu'il y ait Slam de fond, bah, il y avait des slameuses féministes un peu perdues dans les scènes slam où finalement on n'avait pas beaucoup de place. Et puis bah, on a fini par se rencontrer, par faire des ateliers, etc. à plusieurs. Et là on s'est rendu compte que c'était super de partager des scènes, que ça nous donnait de la force. Donc on a eu envie de continuer et puis on a fait des ateliers un peu partout, aux UEH, donc les universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités à Marseille. On en a fait à Paris dans un squat qui s'appelait La Titanic. Et à un moment on s'est dit, mais en fait on laisse jamais de traces, ça suffit. Donc on a sorti un recueil qui s'appelle Slam de fond, donc le nom vient de là, qui est un recueil qui est sorti en do it yourself là, avec une imprimerie pas trop chère, en faisant tout nous-mêmes. Et on a essayé de recontacter toutes les personnes qu'on avait croisées sur des scènes et où on avait partagé quelque chose. Et puis après le recueil, on s'est dit, ah ouais, mais alors du coup c'est bien de laisser des traces, mais c'est bien de faire à nouveau. Et donc il y a eu ce collectif de résidence là qui s'est créé de personnes féministes, donc des trans et des gouines, et qui se retrouvent à peu près une fois tous les trois mois dans un joyeux bordel pour en faire sortir des choses.
Et donc c'est une initiative d'une ville en particulier ou comment ça se passe ?
Non, c'est vrai que le premier atelier qui s'est fait à Marseille, donc aux universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités, en fait, ça faisait. C'est un endroit où beaucoup de gens se croisent et viennent de plein d'endroits différents. Et donc, y avait 2, 3, 4 personnes, je ne sais plus, qui se sont retrouvées là pour proposer cet atelier. En fait, on s'est retrouvés à 10-15, quoi. Et voilà, donc c'est des personnes de plein de villes, du réseau Transpédéguine à la base, féministe, qui se sont croisées. Et voilà.
Vous voulez rajouter quelque chose ? Non ? Est-ce que tu veux enchaîner avec un nouveau slam ?
Ouais, je vais slammer un texte que j'ai écrit à mes tout débuts. C'était il y a à peu près 3 ans et je venais de découvrir plus ou moins le milieu TPG féministe militant. Ça m'attirait puis ça me faisait peur. Voilà, donc mon texte s'appelle Nouveau Monde. 30 ans, tu te rends compte ? Ni si jeune, ni si vienne. Ni si jeune, ni si vieille. Vide ou pleine la bouteille ? Question de point de vue. 30 ans et déjà désabusé, excédé, exagérément lassé du monde. Des gens qui m'entourent. Des mondes que j'infiltre, que je découvre, qui m'intrigue, me repousse bien au chaud dans mon mainstream. J'hésite à pousser la porte. Suis-je attiré par les luttes ou retenu par la frine ? Lesbienne, c'est has-been, faut être gouine pour être in.
Excuse-moi, il y a un souci technique. Il n'y a plus de son. Alors, est-ce qu'on nous entend de nouveau ?
Il y a du son, c'est bon. Ok, du coup, je vais recommencer, si ça vous va.
Excuse-moi.
30 ans, tu te rends compte ? Ni si jeune, ni si vieille, vide ou pleine, la bouteille ? Question de point de vue. 30 ans et déjà désabusé, exagérément blasé des gens, du monde qui m'entoure, des mondes que je découvre, que j'infiltre, qui m'intrigue, me repousse bien au chaud dans mon mainstream. J'hésite à pousser la porte, suis-je attiré par les luttes ou retenu par la frime ? Lesbienne, c'est has-been, faut être gouine pour être in. Le privé est politique, la lesbienne n'est pas une femme, t'as pas lu le Monique Wittig, pas étonnant que tu rames. Déconstruction, pleine confusion. Idées reçues, plans préconçus. Contradiction, grosse remise en question. Le tout politique me fait du charme et je plonge désarmé en demande nouvelle née, accrochée comme je peux à mes convictions bien ancrées. Réfléchir ne m'effraie pas, remettre en cause non plus. Pourtant, je crois qu'il est important que je sache où je mets les pieds, surtout parce qu'ils sont nus. Déjà 30 ans ou 30 ans à peine, ce que je sais n'est pas jetable, tout n'est pas bon pour la benne. Perfectible sans conteste, sans doute pas d'une valeur. J'ai besoin de prendre mon temps pour m'ouvrir complètement. Je refuse l'idée que j'ai tout à reprendre. J'affûte mon esprit pour rester avisé. Je débute, mais j'ai un but qui est simple à expliquer. Le cumul sans complexe de tous mes modes de pensée.
Merci beaucoup.
Alors je vais poursuivre par un texte qui s'appelle « C'est pas comme toi ». C'est un des premiers textes de slam que j'ai écrit quand j'ai découvert le slam. Et voilà, et... Allons-y. Ben non, je suis pas comme toi. Tu me renifles, tu mates bien. Tu vois un je ne sais quoi et tu crois que c'est pas rien. T'en tires la conclusion que je vaux pas plus qu'un coup. Des fois, je te donne raison, je finis tout de suite à genoux. Tu veux me sentir bavé? C'est toi qui vas saigner. T'as soulevé une radasse qui a la mâchoire vorace. T'attendais quoi de ma part? Une copie d'objet d'art dont tu feras ta servante salivante et rampante? Quand je sors de la cuisine, cerné d'un couteau. Mon corps, c'est un champ de mine. Vas-y, sors ton marteau. Si tu me touches, on explose. Mais pas question que tu oses. T'es rien qu'un chien qui aboie parce que je suis pas comme toi.
Alors les viscéralement déviants viennent d'arriver dans les studios.
Salut.
Salut.
Et vous allez nous interpréter une chanson, peut-être je vous la laisse l'introduire.
Alors la chanson elle s'appelle Je me souviens et c'est une chanson qui raconte un peu comment ça s'est passé ma transition par rapport aux potes qui m'entouraient à ce moment-là où ça n'a pas toujours été simple et voilà, c'était une envie de un peu marquer le coup.
Les déceptions amères de mes amis qui se sentaient une âme de missionnaire et s'immisçaient dans mon passé en pensant pouvoir me dissuader de transitionner.
Comme si ton choix ne comptait pas, comme s'il suffisait d'argumenter pour te faire changer d'avis, vu que ta vie ne valait rien devant leur volonté de te voir redevenir comme avant.
Avant, c'est quand je pleurais seul le soir, perdu dans la pénombre de mes pensées, quand je pensais à me foutre en l'air parce que le masque que je portais ne laissait plus passer d'air, m'empêchait de vivre qui j'étais. Je me souviens comme si c'était hier, quand je devais répondre aux multiples questionnaires, passer tous ces examens où il fallait décrocher la mention bien, pour que les keufs de la moralité me foutent enfin la paix.
Mais pourquoi tu transitionnes? Tu veux pas devenir un dieu quand même? Puis attends, si tu prends des hormones, on sait pas ce que ça va faire. Puis si tu transitionnes, tu seras plus féministe.
Je me souviens de toutes ces réflexions qui m'attristaient,
de tes amis qui te traitaient comme un enfant et agissaient pire que des parents. T'en aurais bien rigolé si ces caricatures ridicules n'avaient pas marqué ton cœur exposé de cicatrices indélébiles.
Je me souviens de ceux qui s'arrachaient les cheveux en se demandant pourquoi je leur faisais ça, et de celles qui me pleuraient dans les bras parce qu'elles s'inquiétaient pour moi,
ou encore de ceux qui promettaient sérieusement de te dérouiller si tu devenais violent avec la T.
Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié que la testo ça rendait macho.
Je me souviens de celles qui disaient que ça te passerait et qui croyaient dur comme fer que c'était une crise passagère,
et puis tous ces silences qui en disaient long sur leur dos d'incompréhension.
Je me souviens de toutes ces bios pas toutes hétéros qui te jugeaient projetant leurs préjugés et leurs peurs sur ton parcours, sans percuter leurs privilèges et leurs places.
On n'appartient pas à la même classe. Moi j'ai pas de case à cocher, je suis pas dans les petits papiers de la binarité. Je suis psychiatrisé, ausculté, insulté, humilié, c'est le prix que je paye pour exister.
Mais alors t'es une fille ou t'es un garçon?
Et qu'est-ce que je dois regarder, mon vagin
ou mes poils au menton?
Je me souviens comme si c'était hier.
Avec tellement de colère, enragé de voir que mes amis s'engageaient aux côtés de la société pour établir l'ordre moral. Et tant pis pour mon moral, je pouvais toujours râler pour les relents de normalité qu'ils me gerbaient au nez. C'était pas prêt de changer, même après des années. Je me souviens comme si c'était hier.
Parce qu'encore aujourd'hui, quand un pote transitionne, y'a toujours des teubés pour lui demander de se justifier.
Wouhou! Merci beaucoup.
Simer.
Bah, je vais essayer d'enchaîner ça en vous disant un texte que j'ai écrit sur le corps. Lors d'une rencontre de danse contact dans un contexte féministe et de questionnement sur le corps et l'identité.
Corps malade. Par la cucuie, ma tête est malade. Un accident est si vite arrivé. Ma colonne, ma vertèbre, nouée. Todo cerrado. Mais la rotule, le point de partage. Un espèce de scaphandrier assermenté, découpé. Des couches et des couches pour cacher, pour recouvrir. Tout de noir vêtu, tout de pâle vêtu. Gris transparent disparaît dans la toundra, chiffonne, macère la peau. Chiffon, mirage, silhouette, serré, égorgé. Conforme, non conforme, cherche à situer, à correspondre. Plaque d'immatriculation, plaque d'identité. Corps catalyseur de nos identités, de nos tensions, des noces d'Esséos. Corps crie, chuchote à l'oreille. Corps se défend et crie, issemoebe, en catimini, crac, crac. Croupir, congelé, castagné, corrigé, cacahuété, tout ça dans mon corps. Et qu'il t'en fout une, mon corps. Et qu'il pue et sanglote, mon corps c'est moi, c'est je. C'est du pourri, babot, ça crade patte, à bousculer, à malaxer, à chantonner, à cajoler, à dorloter, à piétonner, à enfoncer, à déboîter. Mais il dit non, non, mon corps. Et il dit encore, encore. Et comment il s'exprime sans les mots? Il cherche.
Mouvement dans le vide. Agitation qui part dans tous les sens. Essai, échec. Essai, échec. Essai, échec. Mais surtout, ne pas écouter. La la la, continuez. Mouvement dans le vide. Agitation qui part dans tous les sens. Essai, échec. Essai, échec. Essai, échec. Mais la la la, continuez. Hécatombe, désertion, mais ne pas se poser de questions. Continuez. Se tromper d'ennemis. Diviser pour mieux se lamenter. Diviser pour être sûr de ne jamais avancer. Diviser plutôt que de chercher des alliés. Purger, filtrer, pureté, hein ? Se tromper d'ennemis. Ne pas écouter la tête dans le guidon. Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Mouvement, agitation, critique, dissidence, doute, désertion. Mais ne pas se poser de questions. La la la, continuez. Mouvement dans le vide. Agitation qui part dans tous les sens. Essai, échec. Essai, échec. Essai, échec. Déserté ?
Merci. Alors on a mis dans l'émission, on a invité Slam de fond et du coup un groupe de hip-hop parce que tout ça, ça se relie avec des textes et du sens. Et des messages qu'on a envie de porter. Et maintenant, on va écouter une chanson. Donc, bonjour Claudine.
Bonjour.
Tu vas nous interpréter. Tu peux présenter une de tes chansons.
Alors, oui, je vais chanter une chanson qui s'appelle Amazon en trois mots. Je voudrais revenir dans ton ruisseau. Oh, oh, oh. Faire avec toi le partage des eaux, oh mon amour. Je voudrais revenir dans le caniveau, sur tes trottoirs humides, prendre la flotte, repartir à zéro, avide, me retrouver dans tes bras, tes ruelles, ma toute belle. J'ai tant de fois à l'ombre de tes fesses, arrondi mes dimanches. J'ai joint mes mains à toutes tes caresses, hanche contre hanche. Toutes ces étoiles qui m'ont cloué au ciel, oh, oh, oh. Je les ai connues dans tes bras, ma belle, ma vie. Je voudrais revenir dans ta rivière, oh, oh, oh. Faire avec toi le partage des pierres, oh mon amour. Je voudrais rouvrir le bar de l'écluse où il faisait bon mourir. Clopes et buveurs et radeaux de la méduse, rassembler nos désirs, me réchauffer dans ton verre à liqueur, ma petite sœur. J'ai tant de fois au bord de tes lèvres allumé mes nuits blanches. J'ai tout gobé la fumée de nos rêves et la lune qui se balance. Tous ces bleus qui m'ont cloué au ciel, oh, oh, oh. Je les ai connus dans tes bras, ma rebelle, ma vie. Je m'en vais, je reviens dans ton décor. Je fais des voyages, des chansons qui me transportent encore. Oh, mon amour, à nos jardins, à nos bouches cousues, à nos peurs, à nos doutes, au terrain vague où on s'était connus, au croisement de nos routes. Je fais des voyages, mais c'est toujours le même, la même scène. J'ai tant de fois.
Et voilà, on va s'arrêter là donc avec une rediffusion du début d'une demi-heure de l'émission On n'est pas des cadeaux. Émission qui était celle-ci consacrée au slam transpédéguine. Et particulièrement là, on a entendu un morceau d'un groupe qui s'appelle Slam de fond. Alors si vous avez envie d'entendre la suite de cette émission ou d'entendre d'autres émissions faites par les mêmes personnes, vous pouvez soit vous connecter au site internet de Radio Canu ou au site internet qui s'appelle Radio Rageuse en un mot point net, sur lequel cette émission est téléchargeable. Vous pouvez l'écouter comme ça par internet depuis votre petit ordinateur chez vous. Et donc maintenant, il est presque 21h, donc je vais clôturer cette émission Feu de tout bois. Je pense qu'on doit être, à la 19e émission ce soir. Je vous souhaite une bonne soirée, si vous nous écoutez en direct, et puis du bon temps, autant qu'il fait, si vous nous écoutez à un autre moment. Et je vous donne rendez-vous sur ces mêmes ondes RDIWA 107.5 FM la semaine prochaine. Voilà, bye bye à tout le monde.
too.